Nous ouvrons le Saint-Livre. Le premier texte sera dans l'Épître aux Romains, un verset que nous connaissons bien dans cette assemblée. Dans le Romains au chapitre 11. Il nous est demandé de nous arrêter sur quelque chose. Romains chapitre 11, verset 22. C'est un verset très important. Car Dieu sait comment te parler. Romains chapitre 11, verset 22. Considérer, c'est vraiment appuyer, c'est vraiment s'appliquer. Quand Dieu dit considérer l'Élysée des champs, il faut prendre du temps. C'est ce qu'on a fait normalement en écoutant tout ce qui a été dit. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Je le relis. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dans l'évangile de Jean, nous voyons comment Jésus s'y est pris à la fin de l'évangile. Il leur avait donné rendez-vous, il leur avait dit par l'ange, c'était fait par commission, c'était Marie qui avait dit aux apôtres, vous retrouverez dans la chambre haute. Jésus leur avait donné un rendez-vous. C'est ce qu'on a ce matin, un rendez-vous. Vous le croyez? Jean chapitre 20, verset 19. Vous connaissez cette histoire, mais souvenons-nous que ce ne sont pas des textes que nous apprenons comme ça, ce sont des messages pour que Dieu puisse nous parler. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen. Nous gardons cette page, nous allons dans l'évangile de Luc, où nous voyons une autre tournure, une façon différente de parler aux hommes. Il y a des paroles pleines de grâce et pleines de tendresse. Il y a des paroles sévères, comme on l'a lu dans Romains. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, le message a été très sévère. C'est facile à comprendre. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète en Israël. 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Et tout d'un coup, Dieu suscite un homme... particulier, un homme qui n'avait pas eu de formateur, en vérité. Josué avait eu Moïse, Élisée avait eu Élie, Timothée avait eu Paul, etc. On pourrait faire une liste. L'une n'avait eu personne, à part, bien sûr, la grâce de Dieu. C'est un homme particulier qui arrive avec un message tout à fait différent de celui que l'on vient de lire. Mais mes frères et sœurs, au-delà de ce que nous venons de vivre dans la paix, dans la grâce, etc., vous comprenez bien que Dieu sait où vous en êtes. Dieu sait. Vous ne le savez peut-être même pas. C'est écrit. David disait quand ça n'allait pas trop, « Toi, tu connais le sentier sur lequel je marche. » Ça veut simplement dire que lui ne savait pas trop à ce moment-là. Mais Dieu, lui, il sait si vous avez besoin d'une parole sévère ou d'une parole pleine de tendresse. Si vous avez besoin des deux, il le sait. Alors regardez comment Dieu a parlé à cette foule qui avait besoin d'être interpellée. Quand on s'approche de Dieu, normalement, on ne vient pas pour avoir une bonne prédication. Quand on s'approche de Dieu, on voudrait savoir ce qu'il faut faire. Luc chapitre 3, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Luc chapitre 3. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanas, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, alors qu'il devait y en avoir qu'un, il y en avait deux, un avait pris le nom d'une femme, ça vous donne un petit peu l'atmosphère super spirituelle. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons donc faire ? Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. » Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Je relis, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Et j'aimerais vous dire que nous aussi, nous avons besoin encore et encore des exhortations. Jean-Baptiste est arrivé dans un moment très, très, très compliqué. Il était dans le désert, mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas Jean-Baptiste dans le désert. C'était toute la nation qui était dans un désert spirituel. Je ne parle pas du désert physique, géographique. C'est pour ça que Jésus a dit, que c'était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'a fait aucun miracle, il n'a même pas guéri un bras cassé. Il a fait aucun miracle. Et Jésus a dit que c'était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a sorti toute une nation de la misère. Et il a parlé avec des paroles sévères, parce qu'ils avaient besoin de paroles sévères. Et Dieu, dans sa grande souveraineté, sait exactement comment te parler. Je ne suis pas tout à fait sûr que tous au milieu de nous, nous avons vraiment envie que Dieu nous parle. Parce que si vraiment Dieu nous parle, et que nous soyons honnêtes, comme ces soldats, comme ces publicains, comme ces gens de la foule, ailleurs on voit les Sadducéens, ailleurs on voit même les pharisiens qui posent des questions. Tout le monde posait la question en contact avec cette parole aussi sévère qu'elle était. Que devons-nous faire? Normalement, quelqu'un de qui s'approche de Dieu ne va pas dire « Seigneur, fais ceci, fais cela », c'est pas interdit. Mais la première des choses qu'un homme va dire lorsqu'il va s'approcher de Dieu, c'est « Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous vous rappelez Saul de Tarse, quand il a été ébloui, parce que c'est une chose de le chanter, ça n'est une autre de le vivre, quand il a été ébloui par la lumière venant du ciel, il n'a pas dit « Ah, tu es vivant, ah ben, ça serait bien que tu fasses ceci, et ça serait bien que tu me donnes ça. » Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ?« Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Lorsque le geôlier de Philippe, un homme qui faisait son travail de fonctionnaire, qui avait jeté dans la prison pour les Silas, alors qu'ils étaient blessés, il les a jetés dans une prison intérieure, dans le noir, c'est écrit, il les a jetés. Cet homme, quand il a été confronté à la grâce de Dieu, de suite, il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Si vraiment nous laissions le Saint-Esprit et ces cantiques qu'on a chantés, ce moment de Sainte-Cène, ce moment d'adoration, ce moment où on se recueille lorsqu'on écoute un cantique, permet normalement, c'est pour ça que j'ai introduit le culte en disant « les cantiques doivent préparer les cœurs ». Normalement, nous devons être maintenant là capables, dans la demi-heure qui suit, peut-être après un appel, de pouvoir dire « mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» que je fasse. Ou est-ce que ça vous est égal? Vous savez, moi, je ne sais pas aujourd'hui dans les églises si ce que les gens, comment les gens réagiraient. Ici, quand même, si, ici, je sais que les gens, ils accepteraient. Si, conduit par le Saint-Esprit, je traitais certains de races de vipères, je pense que ça, moi, je sais que certains d'entre vous ne seraient pas du tout gênés si c'est ce dont ils ont besoin. Mais il se peut qu'au milieu de nous, quelqu'un ait cette double vie. Les vipères, elles ont une langue fourchue, ça exprime les gens qui ont un double langage. Je suis spirituel à l'église, et puis après à la maison, je suis un homme méchant, agressif, violent, méprisant. Je suis minable avec mon épouse, mais j'ai besoin d'une victoire. Et si le Seigneur a traité, si Jean-Baptiste, mais c'est pareil, si Jean-Baptiste a traité ces gens-là qui étaient des hypocrites de race de vipères, c'était pas pour les ennuyer, c'était pour les bénir. Vous le croyez, ça? Ou alors Jean-Baptiste n'aimait pas les gens. Ça m'étonnerait que Jésus ait traité Jean-Baptiste d'homme le plus grand si Jean-Baptiste n'aimait pas les gens. Il les aimait et il ne voulait pas que la colère de Dieu vienne sur eux. Combien de gens ce matin-là? On n'y pense pas et c'est peut-être pas utile, mais c'est peut-être bien d'y penser un moment. Combien de gens en enfer ce matin? Sérieusement, combien de gens en enfer? Aurait aimé peut-être entendre ce que je suis en train de vous dire. Que la colère de Dieu, elle vient. Les gens, ils n'écoutent pas, ils n'y croient pas. Mais ils n'y croient pas, les gens. La colère de Dieu, elle vient sur la terre entière. Toute la terre connaîtra la colère de Dieu. On l'a entendu même dans la présentation de la Sainte-Cène. La colère de Dieu vient. Quand la colère de Dieu va venir, le monde sera dans un désarroi qu'on ne peut même pas le croire tellement c'est grave. La colère de Dieu, elle vient, mais la porte de la grâce est ouverte. Et Dieu sait comment te parler. Si ça ne va pas, si tu as une vie double, si tu as une langue de vipère, si spirituellement tu as un double jeu, moi je te dis, repens-toi. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je dois faire? Mais repens-toi. Pas regrette pour recommencer et pleurer et dire j'en ai marre, Seigneur, pardon, et ça recommence et je chute et j'ai des remords et je recommence la semaine d'après. Non! Le Seigneur, il ne nous fait pas faire cette espèce de yo-yo-là. Le Seigneur, c'est un Dieu de délivrance, de guérison, de restauration. Et s'il est au milieu de nous, comme il l'a promis, c'est pourquoi? C'est pour nous bénir. Et ce matin, n'importe qui au milieu de nous, quelle que soit son attitude spirituelle, serait-ce une race de vipères ou serait-ce un chrétien qui, comme Thomas, n'était pas là, il n'était pas au rendez-vous, ça nous est arrivé de manquer des rendez-vous avec Dieu. Vous croyez qu'on n'a pas dû manquer des rendez-vous avec le Seigneur? Soit à la maison, dans notre culte personnel, soit à l'église, vous ne croyez pas qu'on en a loupé des rendez-vous? Moi, je vous avoue franchement que je suis émerveillé devant la pédagogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, au préalable, avait averti les apôtres, dites aux disciples, et à Pierre, parce que Pierre, il était quand même en état de difficulté. Cette délicatesse, vous voyez, que je les rejoindrai en Galilée. Il savait où il fallait qu'il soit. Comme nous, ce matin, nous savions que nous devions être ici. Oui ou non? Nous le savions. Et le Seigneur sait venir. Vous avez vu, ils étaient enfermés. Ils avaient peur. Leur maître venait de mourir. Il avait été crucifié. Ils n'ont jamais cru, à part Marie de Béthanie. Personne a cru à la résurrection de Jésus-Christ. C'était un peu fort quand même. Et puis ils étaient là, enfermés, parce qu'ils ont dit, ils ont tué le maître. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ils vont faire pareil. Pour ça qu'ils avaient peur. C'était les futurs apôtres, c'était les hommes que Jésus avait formés pendant 3 ans et demi. Tous l'ont abandonné. Tous. Il y en a un qui l'a vendu, et l'autre qui se croyait meilleur que les autres, qui l'a renié. Ils étaient là dans la crainte, dans la peur, les portes fermées à double tour. Et Jésus est entré. Vous le croyez, hein? Moi, j'aimerais avoir la vidéo, je vous le dis. Jésus est entré. Et Jésus leur a dit, race de vipères, qu'est-ce que vous m'avez fait? Au moment où j'avais le plus besoin de vous, vous m'avez endormi, vous trois, là, vous dormiez dans le jardin? Ah, ça c'est bien. La paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, sérieusement, je ne sais pas ce que vous avez besoin d'entendre, mais je sais une chose, c'est que quand nous sommes ses enfants, nous sommes délivrés de la colère. Si vous êtes des enfants de colère, eh bien, repentez-vous. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, je ne dis pas si vous avez accepté l'Église évangélique comme nouvelle religion qui est différente des autres. Non, ça ne vous sauvera pas, ça. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, parce qu'un homme qui accepte Jésus comme Seigneur, il abandonne les idoles. C'est écrit ou c'est pas écrit? Si vous continuez à aimer les idoles, à prier la Sainte Vierge, si vous continuez à prier les morts, moi je vous le dis, vous n'êtes pas convertis. Vous êtes peut-être religieux, peut-être même une meilleure moralité que moi. C'est possible même. Mais je peux vous dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par la repentance. Et si le message de Jean-Baptiste était si sévère, d'ailleurs je crois que plus ça va aller, les personnes qui ne connaissent pas Dieu devront vraiment entendre ce message sévère. Il faut se repentir parce que la colère de Dieu, elle vient. Et il faut vraiment se bouger Parce que si on ne se fait pas violence, eh bien vous allez rester là et vous direz, mais j'avais entendu, le Seigneur m'avait donné un rendez-vous, il avait préparé toute chose ce matin-là pour que je vienne dans l'église et je suis passé à côté et vous regretterez longtemps de ne pas avoir cédé à l'appel de la croix. Mais ça, c'est pas nous qu'on vous obligera, c'est vous qui vous y efforcerez. Et le Seigneur savait comment parler à ces gens. Il y avait des soldats, il y avait des pauvres, il y avait des riches, il y avait des religieux, il y avait des hypocrites. Mais c'est quand même extraordinaire, chaque fois que vous ouvrez le Saint-Livre et que vous voyez Dieu parler à l'humanité, chaque fois il dit, vous tous, venez à moi, vous tous qui avez soif, venez tous. Que son nom soit béni. Une parole de Dieu. Oui, j'ai besoin d'une parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, chrétien, depuis 5 ans dans cette église, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond depuis 3 ans, depuis 5 ans. Je suis là, dans ma bulle. Je suis là, je suis malheureux. Alors que Dieu a des œuvres, des plans, des projets. Vous le croyez que Dieu a des projets? Est-ce que vous croyez que ce matin, le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un? De sa tiédeur, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, ces gens-là étaient attirés. Pourtant, les soldats, vous voyez, des gens qui étaient peut-être là. Ils avaient été envoyés, j'en sais rien. Peut-être ils ont été envoyés pour surveiller, parce que Jean-Baptiste, il commençait à faire un peu de fouine dans la région. Mais ces gens-là, ils ont été touchés. Et mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le Seigneur a une parole pour chacun ce matin. C'est peut-être race de vipère, parce que tu es dans le péché, et tu es dans les tourments, et tu es un hypocrite. Mais bénis Dieu s'il te dit que tu es un hypocrite. Moi, je me souviens le jour où le Seigneur m'a montré que j'étais un mauvais mari. Je crois que j'étais fou de joie. J'avais demandé à Dieu qu'il me parle. J'avais demandé à Dieu du pain, comme Jésus le dit. Et il m'avait donné du pain. Et j'étais fou de joie. Il y avait 400 pasteurs, je me suis levé pour qu'on prie pour moi. Parce que Dieu m'avait parlé. Je n'avais pas honte, moi, ça m'est égal. Moi, il s'agit que Dieu me parle. Et s'il te dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si Dieu vous pose une question, mais soyez sérieux. Dans la maison de Dieu, c'est nécessaire que tout le monde soit soucieux. De dire, mais Seigneur, tu as une parole pour moi. Ce que l'Esprit dit aux églises. Vous croyez que Dieu a quelque chose à dire à l'église? Dieu a quelque chose à te dire. Alors si vous faites partie de ces gens superficiels, ouais, je demande à Dieu qu'il me parle et il ne me parle pas. Ouais, avec moi, ça ne marche pas. Mais repentez-vous. Mais bien sûr que peut-être il nous faudra apprendre ou réapprendre qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous sommes dans une génération toujours pressée, il faut faire vite, vite. Le café, il le faut en 25 secondes maximum. Mais mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, les produits instantanés n'existent pas. Dans le royaume de Dieu, il faut du temps. Que ferais-je? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être que Dieu... C'est sûr. Il y a des choses que Dieu ne vous a pas encore données, que Dieu attend de vous donner. Dieu voudrait vous donner. S'il nous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Mais nous soyons intelligents. Que diriez-vous d'un enfant de 6 ans qui demande une mitrailleuse véritable? Vous la lui donneriez? Eh bien, c'est l'exemple exact de ce qui se passe. Nous demandons parfois des choses au Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts à les utiliser. Nous ne serions pas capables de les utiliser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 10 ans que je suis chrétien, mais moi... Alors, si vous n'êtes pas sauvé, c'est sûr que la colère de Dieu repose sur vous. Ne vous imaginez pas que parce que vous êtes super sympa, que vous avez une belle moralité, que vous pouvez même dire, « Oh, mais moi, je suis pas chrétien, mais franchement, j'ai une meilleure moralité que certains chrétiens. » C'est sûr que ça fait honte à ces chrétiens-là. Et si vous êtes un chrétien léger dans ce sens, honte à vous. Mais ce n'est pas parce que vous avez de la moralité que vous allez aller au ciel. Et la colère de Dieu demeure sur vous. Si le sang de Jésus n'est pas sur votre âme, vous irez en enfer. Moi, je vous le dis. Mais même si vous n'êtes pas bien, mais à partir du moment où vous êtes un chrétien, sauvés par grâce, que le sang de Jésus a couvert votre esprit, il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous comme lui seul est capable de le faire. Moi, je ne sais pas comment il fera, mais il vous connaît. Ne dites pas, oh Seigneur, tu as fait ça dans la vie de tel homme, fais la même chose. Non. Ne demandez pas à Dieu de vivre la même expérience que tel autre a faite. Dieu sait comment s'approcher. Le jour de la résurrection, il aurait pu aller voir Hérode, il aurait pu aller voir Caïphe, il aurait pu aller voir Pilate, il aurait pu aller voir tous ces donneurs de leçons. Le jour de la résurrection, il est écrit qu'il a rejoint deux disciples qui partaient. Ils étaient découragés, c'est clair, je comprends. Ils partaient sur le chemin d'Emmaüs et Jésus les a rejoints. Et il s'approche d'eux. Et il leur pose la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Ils s'arrêtent, l'air étonné. « Mais tu es le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ? Mais tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus ?» Et vous connaissez la longue description super spirituelle qu'ils vont faire. Et Jésus les laisse parler. Il y a un moment pour parler. Même si ça ne va pas, vous avez le droit de dire au Seigneur que ça ne va pas. Jésus aurait pu lui dire, mais vous ne me reconnaissez pas, vous n'avez pas honte. C'était des disciples, c'était des disciples. Et Jésus, après qu'ils aient parlé, je ne sais pas combien de temps ça a duré, combien ça parle, s'ils étaient deux. Imaginons, on ne sait pas s'il y avait un homme et une femme. Imaginez que l'un des deux a parlé peut-être plus longtemps que l'autre. Ils étaient deux. Il y en a un qui s'appelait Cléopas, on ne sait pas le nom de l'autre. Bon, ça c'était pour la boutade. Mais ils ont parlé. Et puis qu'ils ont parlé, Jésus leur a dit, « Et homme sans intelligence et dont le cœur est lent à... » Vous connaissez. Et puis quand ils sont arrivés à la maison, « Reste avec nous !» Vous n'avez pas envie que Jésus, après le culte, reste avec vous, plutôt que de vous disperser dans des trucs qui ne vous rassasieront pas. Seigneur, reste avec moi. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et ils ont su ce qu'ils devaient faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour, en pleine nuit, ils sont repartis à Jérusalem, à leur place. Les apôtres étaient à leur place, Thomas n'y était pas. Thomas était peut-être un petit peu plus défait que les autres. Et Thomas, il a perdu 8 jours. Combien de temps on peut perdre, au fait? Tiens donc, c'est une bonne question. Combien de temps on peut perdre avec Dieu? 8 jours? 8 semaines? 8 mois? 8 ans? 20 ans? Moi, ce qui me bouleverse, c'est que même si on a perdu des années, le Seigneur, il ne nous accable pas. Moi, ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente. Et bien sûr, Thomas n'a pas cru les 10 frères, 10 collègues qui avaient été avec eux pendant 3 ans et demi. Et quand ils disent, mais on a vu le Seigneur. Non, hop. Moi, je veux voir les marques. Je veux voir les marques dans ses pieds, je veux voir la marque dans son côté. Si je ne vois pas ça, je ne croirai pas. Je ne sais pas s'ils en ont parlé, si la discussion a été houleuse, je n'en sais rien. 8 jours après, le Seigneur s'approche. Il revient de la même manière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Thomas. Il aurait pu dire à Thomas, et alors, c'est maintenant que tu arrives? Franchement, qu'est-ce que vous lui auriez dit à Thomas, vous? C'est maintenant que tu reviens? Ça fait 3 ans que tu as rétrogradé et tu te pointes maintenant à l'église? Mes frères, mes sœurs, même s'il y a longtemps que vous n'êtes pas venus à l'église et que vous soyez là ce matin, soyez les bienvenus. Vraiment. Et ne vous traumatisez pas. Soyez vraiment les bienvenus. En tous les cas, nous, on est heureux de vous accueillir. Vraiment. Que vous ayez perdu 8 jours, 8 semaines, 8 mois, 8 ans ou 20 ans, écoutez, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Il n'a pas dit à Thomas, tu sais Thomas, tu m'as fait honte. Tu as passé 3 ans avec moi, je vous ai dit 50 fois. que je devais mourir, que je devais souffrir. Je vous l'ai dit, je vous ai même posé des questions, à savoir si vous aviez compris ces choses. Vous m'avez tous dit oui. Et là, en plus, tu te permets de faire le malin? Il aurait pu, et il aurait pu le faire avec doigté, il aurait pu le faire avec sévérité, comme il a parlé, comme Jean-Baptiste parlait à ses hypocrites. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Quand on est enfant de Dieu, il n'y a pas besoin de cette dureté. On a besoin de tendresse. Thomas, avance. Avance, oui, il y a deux façons de le dire. Avance ici, et dépêche-toi. Thomas, avance et regarde. Regarde mes mains. Je ne sais pas comment ça devait être. Moi, ce matin, quand on chantait, je pensais, parce qu'on chantait des cantiques quand même. Je pensais aux cantiques que Thomas chantait quand il est rentré chez lui ce soir-là. Comment il a dû rentrer à la maison. Je suis sûr que de suite, il a envoyé un texto à sa femme. Écoute, chérie, tu ne le croiras pas. Tu ne le croiras pas. Tu ne le croiras pas. Je ne sais pas s'il y en avait à l'époque. Mais je pense qu'il a dû se dépêcher de porter un message à sa famille. Regarde mes mains. Voyez, c'est race de vipère pour quelqu'un, si tu en as besoin. Mais je te dis, remercie Dieu si Dieu te traite d'hypocrite. Si tu es un hypocrite, bénis le Seigneur de ce qu'il te le dise. Peut-être moi, il le dirait mieux que moi, ça c'est certain. Mais si tu es un hypocrite, repens-toi. Est-ce que Dieu bénit les hypocrites? Ben oui, on n'était pas meilleurs qu'eux. On a été hypocrite. On l'a même été après notre conversion. Parfois, et béni soit Dieu qui nous ait pardonné. Mais avance, avance. Il a dû regarder, ils ont dû se regarder. Tout le monde. Moi, j'imagine le regard de tous les apôtres, ça devait être merveilleux quand même. Ils ont dû se regarder, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils le connaissaient quand même un peu, ils savaient très bien que ça allait être bien. Regarde mes mains, peut-être que c'est ce que Dieu te dit ce matin, mais mon fils, réapprends à regarder les mains du Seigneur. Les mains percées, c'est vrai, comme quelqu'un l'a dit ce matin dans sa prière, quand dans le jardin de Gethsémané, tout le monde l'a abandonné, il savait ce qu'il allait vivre. Quand Pierre a voulu essayer de le défendre, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ne penses-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Et il a accepté, et il s'est laissé crucifier. Et lorsqu'il dit à un de ses enfants qui allait moins bien que les autres, « Regarde mes mains, je ne sais pas comment vous allez, je ne sais pas spirituellement si vous êtes bien, je ne vous connais pas assez. Mais si le Seigneur te dit ce matin, mais sois à ta place et regarde mes mains, avance, mets ta main dans mon côté. » Je ne sais pas comment Jésus a fait, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait fait, ce n'est pas dit qu'il l'a fait, moi je ne l'aurais pas fait. Mais il l'a entendu. Mais peut-être, est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, mais regarde à nouveau les évangiles. Et regarde ce que le Seigneur a fait dans les évangiles. Regarde ses mains qui ont béni. Est-ce que ses mains ont béni quand il était sur terre? Est-ce qu'il n'est pas parlé qu'avec sa main, il a touché la main de la belle-mère de Pierre? Regarde mes mains, que ça veut dire? Ça veut pas dire regarde les mains, fais-toi un film sur cette affaire. Non, regarde mes mains, ça veut dire mais je vais relire les évangiles, je vais les relire et je vais regarder tout ce que tes mains ont fait. Même si les hommes t'ont crucifié, ces mains bénies, on les a crucifiées. C'est une histoire de malade. Quand on y réfléchit humainement, je parle. Les mains d'un homme qui a tant béni, on les a crucifiées. Regarde mes mains, avance, approche-toi de moi. Un don spirituel l'a dit ce matin, mais vous avez vu toutes les fois où il dit, mais cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et votre âme vivra, cherchez-moi et vous rassasirez de mes succulents. Vous croyez que les apôtres étaient heureux d'avoir attendu 8 jours de plus? Ils avaient un rendez-vous, mes frères et sœurs, quand on vient à l'église, on a un rendez-vous avec Dieu. Et franchement, je le dis ça pour qu'on fasse tous des progrès, on devrait tous y réfléchir. J'ai un rendez-vous avec mon Seigneur. Il faut que je prépare le culte. Ou est-ce que juste c'est les musiciens, les choristes, le prédicateur, le frère ou la sœur qui reçoit un don spirituel, qui se lève un peu plus tôt pour dire je veux travailler, participer à ce culte. Comment vous avez participé à la préparation de ce culte? Et là, je voudrais vraiment pas culpabiliser. Mais que deviendraient nos cultes si nous nous avancions, si nous acceptions une parole, si sincèrement, mais écoutez franchement, non mais là, c'est même pas la peine, si vraiment, parce que Dieu voit ton cœur, si sincèrement, maintenant, peut-être ce soir, demain matin, je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel, mais vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? À quoi tu m'appelles? Hier matin, à la réunion d'hommes, il y a eu un don par rapport à un frère qui doit rentrer dans le ministère. Mets-toi à genoux, mon frère. Mets-toi à genoux. Et Dieu t'aidera. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous ne savez pas ce que Dieu veut. Peut-être vous êtes à mille lieues de vous dire, mais c'est pour moi, c'est pour qui cette prédication? J'y comprends rien. C'est plein de sévérité pour les uns, c'est plein de tendresse pour les autres. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce genre de message, vous n'y comprenez peut-être pas grand-chose. Mais peut-être que c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as donné un mari, tu m'as donné une épouse. Tu veux me donner une épouse. Tu veux me donner un mari. Tu veux me donner des enfants. Seigneur, mais dans toutes ces choses et ces projets, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être qu'avant de me donner une femme, Seigneur, tu veux que j'apprenne quelque chose. Nous, on n'a pas eu d'enfants. On s'est toujours posé des questions. Après, j'ai compris. Parce que moi, je ne serais jamais rentré dans le ministère avec des enfants. On avait des exemples tellement magnifiques de pasteurs qui faisaient subir la difficulté à leurs enfants que moi j'ai dit, moi je ne rentrerai pas dans le ministère avec des enfants. Vous voyez, comme on a des blocages. Est-ce que vous comprenez? Moi j'avais un blocage. Et je ne voulais pas rentrer dans le ministère. Je me suis dit, bon, si je n'ai pas d'enfants, ça va. Je ne veux pas imposer à mes gosses la pauvreté. Vous voyez, j'avais 6 mois de conversion. Vous acceptez le fait que j'avais des doutes par rapport à ce niveau. Et quand je suis rentré dans le ministère, la semaine après, ma femme me dit, Gérard, je suis enceinte. J'ai compris. J'aurais pu avoir des enfants très tard. Mes frères, le Seigneur, il sait venir vers toi. Mais sois à ta place. Jésus leur avait dit, dites aux apôtres, dites à mes frères. En plus, il appelle ses frères. Dites à Pierre que je les précède en Galilée. C'est là que je les retrouverai. Mais sans être très spécialiste en la théologie, c'est facile à dire à quelqu'un, écoute-moi mon frère, entre dans ta chambre, c'est là que je te retrouverai. Vous entendez? Entre dans ta chambre, enferme-toi. Éteins ton Facebook, tes internets, tes machines, tes portables. Éteins, c'est peut-être pas ça. Éteins et arrête quelque chose qui te vole du temps. Et regarde ses mains. Je vais relire les évangiles et je vais regarder ce que ses mains ont fait. Moi, je trouve que c'est bien quand il prend un morceau de pain qui rend grâce. Vous bénissez Dieu pour chaque morceau de pain. Et il le rompt. Et dans son infinie puissance, il le multiplie. Voilà ce que ses mains ont fait. Il peut le refaire. Mais le morceau de pain, il était dans sa main. Seigneur, je veux être dans tes mains. Vous croyez que vous serez à l'abri dans les mains du Seigneur? La Bible dit que des gens sont dans sa main. La bonne main du Seigneur était sur moi. Vous savez, ce que je ressens en ce moment, c'est que je ressens cette sévérité de Dieu et en même temps cette tendresse. Ça a été, toute la semaine, ça a été ce que j'ai perçu dans mon esprit. Mais je vais vous dire, quand vous connaissez Dieu, la sévérité et la tendresse, sincèrement, je crois que c'est la même chose. C'est la manifestation de son amour. Et je sens très bien dans mon esprit que Dieu voudrait que tous, bien sûr tous, ça serait merveilleux, mais que plusieurs sachent que comme Thomas n'a pas été... Thomas, moi je les imagine parce qu'ils étaient comme nous. Il a dû quand même avoir un peu honte. Pierre était là. Pierre était là, c'était la deuxième fois que Jésus se montait à ses apôtres depuis qu'il était ressuscité. Pierre avait besoin de régler un truc, oui ou non? Vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours après, ils étaient là, tous désœuvrés, les futurs hommes de Dieu, tous désœuvrés. Pierre dit, ben, moi je vais aller pêcher. Et il y en a plein qui disent, ben, on va aller avec toi. C'est pas des pêcheurs, c'est pas des pêcheurs de poissons. Mais ils l'accompagnent, ils sont tous malheureux. Et puis ils travaillent toute la nuit sans rien prendre. Et voilà qu'il y avait quelqu'un sur le rivage, à peu près à 100 mètres. Mais ben, vous n'avez pas retenu la leçon? C'est ça qu'il leur a dit? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Moi, je trouve que c'est beau, franchement. Non, ils ne l'ont pas reconnu. Hein. Vous savez, des fois, Dieu nous parle, pas de toute manière, on ne reconnaît pas trop que c'est le Seigneur. Non, et puis, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils étaient à 100 mètres, c'est écrit. Et ils l'ont fait. Ils ont ramassé des poissons, 153. Et quand ils sont arrivés sur le rivage, je leur ai dit, maintenant que je vous ai fait ça, dépêchez-vous de faire cuire des poissons. C'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui est écrit? C'est juste après. Il est dit que Jésus les attendait sur le rivage. Il avait fait un feu, il y avait des charbons ardents, avait du pain et des poissons rôtis. Je vous rappelle que le Seigneur Jésus, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Et il les attend. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et il dit à Pierre, « Pierre, alors, on ne fait plus le malin ?» Non mais franchement, vous connaissez comment Pierre a été, bien sûr, interpellé Pierre. Pierre, tu sais, tu m'as renié. T'es grillé. Non, mais aujourd'hui, vous savez, on a vite fait. On rit parce que la façon dont je vous le dis est tellement solennelle que je m'autorise à faire un peu d'humour. Mais mon frère et ma sœur, on a vite fait de griller des gens. De pulvériser des ministères. Moi, ça me brise le cœur. C'est pas trop votre problème, mais c'est bien que vous le sachiez, que dans le corps de Christ, on a vite fait de désinguer des gens à la place de les amener à regarder tout à nouveau les mains du Seigneur. Parce que même le plus grand des apôtres, croyez-moi, c'est écrit, il a besoin de voir les mains du Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous connaissez l'entretien? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu comme les autres? Trois fois. Paix mes agneaux. Voilà. C'était la troisième fois. Pourquoi Jésus ne lui a pas, excusez-moi l'expression, sauté dessus la première fois? Il aurait pu le faire. Nous, on l'aurait fait. Et le Seigneur n'y a rien dit. La deuxième fois, il n'y a rien dit. La troisième fois, il a fallu que Pierre, il avait besoin. Il avait besoin, d'ailleurs, quand le disciple que Jésus a aimé a dit, mais c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il n'a pas pu attendre. Il aurait pu attendre, il dit, bon, ramasse, je vous aide, et franchement, c'est le Seigneur, oula, c'est le Seigneur, il s'est jeté à l'eau, il a été, il fallait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, et je termine avec cette pensée, parce qu'elle est suffisante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit vraiment, ça c'est entre vous et Dieu va voir comment vous allez répondre dans votre cœur, il va vous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, moi aussi, je veux me jeter à l'eau, et je veux me retrouver dans ta présence? Le Seigneur, il vous connaît. Vous savez, il est 11h10. Est-ce que on peut prendre un quart d'heure? Ou est-ce que c'est pas utile pour aider ceux qui veulent réapprendre la grâce de Dieu, la sévérité de Dieu? Si vous n'êtes pas sauvés, repentez-vous. Vraiment, abandonnez vos idoles, abandonnez votre duplicité. Mais si vous êtes chrétien, replongez-vous dans sa présence. On va fermer les yeux. Vraiment, je sais que Dieu, comme on l'a vu hier matin, Dieu veut terminer la construction du temple spirituel. Dieu sauve, et en même temps, Dieu veut construire son temple avec des hommes et des femmes, bien entendu. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais Seigneur, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur vous aidera, c'est pas possible. Il l'a fait à des pharisiens hypocrites, il leur a parlé. Il fallait que ça soit un petit coup de marteau peut-être, mais c'était pas pour briser le cœur, c'était pour briser la dureté. Mais si quelqu'un, franchement, c'est entre nous et Dieu. Vous voyez, Thomas, il avait fait intéressant, mais vous voyez, le Seigneur ne l'a pas jugé. Vous êtes ses enfants. Si vous avez pris le baptême par immersion, si vous avez pris le baptême, Dieu va s'approcher d'une manière super utile. Et moi, je veux aider. Je veux vraiment aider. Du mieux possible. Par la grâce de Dieu, celui qui dit, qu'est-ce que je ferai, Seigneur? Que vous soyez soldat, religieux, pharisien, que vous soyez Thomas, que vous soyez Pierre, que vous soyez qui que vous soyez. Le Seigneur, il vous attend. Sur le rivage, dans la chambre haute, pour vous bénir. Il t'attend, mon frère.